du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Poisson d'avril.
Eh oui, ça, c'était un poisson d'avril qui vient du répertoire classique, où il sert d'ailleurs également de poisson d'avril.
Et cette pauvre femme, elle chantait vraiment, vraiment très faux. Mais elle a fait des concerts, parce qu'elle avait un mari très riche.
Oui, oui, et le mari faisait du poisson d'avril toute l'année, grâce à sa femme. C'est quand même pas mal. Quelle friture, quelle friture. Eh bien, aujourd'hui... C'est émouvant, car la dernière fois que le 1er avril est tombé un mercredi, eh bien, l'émission a été victime d'un incident technique. Radio Margeride, ce 1er avril 2013, je crois, était complètement HS.
Eh oui, il y a des jours comme ça, où on s'attend à rire et quand même on était embêté.
Ah, on était embêté. Alors, la fois où on a pu faire l'émission du 1er avril un mercredi et raconter quelques bonnes blagues, c'était en 2009. Comme vous voyez, ça remonte vieux, hein. Et donc, eh bien, non, vous n'allez pas avoir droit aujourd'hui à l'émission du 1er avril d'il y a quelques années, qui n'avait pas pu se faire, mais enfin, nous avons concocté un petit florilège. Et pour commencer, voici un morceau qui s'appelle...
Joking, ce qui veut dire en blaguant.
C'est tiré de la bande sonore du film de Louis Panassier, L'Aventure du Jazz, et c'est joué par l'orchestre de Buddy Tate. Au fait, c'est aujourd'hui la Saint-Hugues et le 33e anniversaire... de la planète du jazz. Et ça, c'est pas un poisson d'avril.
Thank you.
était le roi de la blague dans l'histoire du jazz, madame?
Oh, c'est notre ami Fats Waller. Ah oui, franchement, c'était un plaisantin. D'ailleurs, c'était naturel chez lui. Tout le monde attendait qu'il fasse des plaisanteries, mais ça ne lui portait pas peine. Parce que vous voyez, quelquefois, il y a des gens qui sont très drôles, qui ont beaucoup d'humour, et tout le monde attend qu'ils disent des choses drôles. Et pour eux, finalement, ça finit par être pas drôle du tout. Mais Fats, c'était pas ça. C'était une explosion de bonne humeur, de rire, de blagues. Quelquefois, c'était des blagues un peu culottées. Comme celle-là, par exemple.
Fats, qui pesait 130 ou 140 kilos,
au bas mot,
d'où son surnom, était à son piano et voit arriver sur scène la chanteuse qu'il devait accompagner. Une énorme dame. Et il s'écrie « Oh, all that meat and no potatoes ?»
Oh, toute cette viande et pas de pommes de terre.
All that meat and no potatoes. All that meat and no potatoes. All that food to the alligators, yeah. Hold me steady, I am ready. With all that meat and no potatoes. I don't think that peas are bad. With me, most anything goes. I look in the pot, I'm fit to fight. 'Cause woman, you know that mess ain't right. All that meat and no potatoes just ain't right like green tomatoes. Yes, I'm steaming, I'm really screaming. All that meat and no potatoes.
L'histoire suivante concerne Charlie Mingus, célébrissime contrebassiste, qui avait son caractère et qui, comme la plupart des gens qui ont leur caractère, l'avait mauvais.
Ce soir-là, il était avec son orchestre. Et là, franchement, les gens, ils étaient à table. Vous savez, c'était des concerts avec repas, etc. Les gens parlaient très très fort. On se demandait même plus s'ils écoutaient. Ils s'interpellaient d'un point de la salle à l'autre. La musique s'en fichait complètement.
Alors là, Mingus appelle le maître d'hôtel. Bah, puisque c'est comme ça, servez-nous donc notre dîner ici sur scène. Comme ça, on aura de la compagnie. Le maître d'hôtel était un peu interloqué. Mais Mingus, il avait un physique qui ne permettait pas la discussion et un regard qui la permettait encore moins.
Le maître d'hôtel a apporté le repas.
Et c'est comme ça que l'orchestre de Mingus a pu dîner ce soir-là en fort bonne compagnie et sans trop se fatiguer. Voici Charlie Mingus à l'œuvre dans un morceau qui lui avait été spécialement consacré dans le programme du Big Band de Lionel Hampton à l'époque où Mingus y jouait. Et ce morceau s'appelle
Mingus Finger, les doigts de Mingus.
Les doigts de Mingus, tu vois, non seulement ils étaient capables de slapper les cordes d'une contrebasse, mais également d'indiquer à un maître d'hôtel l'endroit exact où il fallait servir le repas.
Maintenant, on va vous raconter une sacrée vilaine blague.
Oui, là, c'est une histoire qui est forte de café.
Oui, au studio, tout le monde prend un petit café parce qu'il y a des pauses.
Dans ce studio-là se déroule une séance d'enregistrement du chanteur et danseur Robert Alex Williams. Et dans l'orchestre, il y a Charlie Parker, Dizzy Gillespie et quelques autres.
Et arrive le moment du café. Le café de Charlie Parker, c'était pas un café ordinaire. Hein.
Ah non, parce que Charlie Parker carburait à la benzédrine, une amphétamine de l'époque. C'est la même qu'on donnait aux pilotes de chasse pendant la guerre pour tenir le coup.
C'était pas léger. Hein.
Et alors non seulement il carburait à la benzédrine, mais il prenait les recharges d'inhalateur. C'est-à-dire qu'ayant vidé la recharge dans son café, ça équivalait, d'après celui qui raconte l'histoire, à 75 comprimés de benzédrine. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et là, le café est laissé sur le coin de la table et arrive Robert Alex Williams, hurlant qu'il veut un café tout de suite. Entre nous, il était déjà bien parti. Et hop, il y a un loustique qui lui passe la tasse de Charlie Parker. Et voilà Robert Alex Williams qui ingurgite le café benzédriné.
Et puis, on repart dans le travail. Et là, le chanteur benzédriné, je vous dis pas dans quel état il était.
La première chose qu'il a faite, ça a été de demander qu'on éteigne la lumière dans le studio, parce qu'il devait avoir les yeux qui commençaient à clignoter dur. La deuxième chose, ça a été de chanter. Or, ça a été enregistré, ça a été publié. Eh bien, vous allez avoir l'échantillon de ce vocal un peu particulier, qui s'appelle « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
What's the matter now? What's the matter now? I haven't seen you, honey, since away last spring. Tell me, pretty mama, have you broke that thing? What's the matter now?
we can't get along somehow. I ain't had no sugar in a long time. Tell me what's the matter now, mama, tell me what's the matter now. Give me loving like a mama should. Tell me, do you really think I'm made of wood? What's the matter now? We can't get along somehow. Papa wants some honey from that honeycomb. Tell me what's the matter now, baby. Tell me what's the matter now. Give it up, oh, what's the matter now? Open it up, open it up. I haven't seen you, honey, since way last spring. Tell me, pretty mama, have you broke that thing? What's the matter now? We can't get along somehow. I want some honey from the honeycomb. Give it to me. Tell me what's the matter now, pretty mama. Tell me what's the matter.
Vous devez vous demander comment un musicien peut se faire virer d'un grand orchestre. Eh bien, voici deux solutions. La première, elle est revendicative, et la seconde résulte, comment dire, d'un excès de bonnes blagues. Voici l'histoire de Rex Stewart, Bobby Stark et Sandy Williams chez Fletcher Anderson, racontée par un des protagonistes, qui était Rex.
Après une tournée dans le sud et notre retour à la civilisation, nous avons beaucoup souffert à Philadelphie, sur le chemin du retour, où Fletcher avait accepté un engagement au Pearl Theatre. Ça commençait à 10h30 le matin et courait en continu jusqu'à minuit. Le plus dur était la façon dont le propriétaire nous faisait travailler, à raison de 5 shows d'une heure trois quarts chacun. On avait à peine joué la dernière note que le chef de plateau se mettait à hurler « une demi-heure avant le prochain passage !» Ajouter 2 enregistrements pour un broadcast et 2 midnight shows se terminant à 2h du matin. Au bout de 3 semaines, nous sommes revenus à New York pour enchaîner dès le lendemain à l'Empire en face du Roseland. Dans le car, les mecs commençaient à râler, et on peut les comprendre. Nous étions tous lessivés. Mais tout le monde, à New York, avait su que Fletcher était de retour. Et nous avons cartonné en y mettant tout ce que nous pouvions. Sur ce, Fletcher nous a demandé d'aller jouer le soir suivant pour un bénéfice. Là, nous ne pouvions pas croire que Fletcher ait accepté un travail supplémentaire après tout ce que nous venions de nous taper depuis plus d'un mois. Et même si ça ne se faisait pas de discuter les décisions du boss, j'ai dit que j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit, sauf aller me coucher. Tous les autres ont fait chorus, et il n'y a pas eu de bénéfice. À quelques jours de là, j'ai entendu Hawk, qui a demandé à Fletcher s'il avait récemment entendu Red Allen, ajoutant qu'il jouait formidablement. Ça m'a beaucoup inquiété pour le pauvre Bobby Stark, qui venait déjà 2 fois d'être viré. Et aussitôt repris. Je ne voulais à aucun prix voir casser notre section de trompette. Et en plus, juste au moment où nous avions chacun économisé assez pour pouvoir nous payer un pardessus en poil de chameau pour l'hiver. Je suis allé plaider le cas Bobby auprès de Smack et j'ai eu le choc de ma vie quand il m'a répondu « C'est très gentil à toi d'intervenir pour Bobby. Mais ce n'est pas lui qui s'en va, c'est toi. » Quant à Bobby, Il a connu le même sort quelques mois plus tard, le soir même où Sandy Williams et lui, sorte de duettiste imprévisible que nous surnommions dans l'orchestre Mr. Barr and Mr. Grill, ont fini par se faire virer pour de bon après qu'ils aient fait exploser des pétards sur scène pendant une soirée dansante.
Eh bien voici un morceau où on peut les entendre tous les trois. Le premier trompettiste que vous entendrez, c'est Bobby Stark. Le trompettiste que vous entendrez plus loin dans le morceau, c'est Rex Stewart qui vient de vous raconter l'histoire. Et le premier tromboniste qui prend un solo, c'est Sandy Williams. Ils sont tous très brillants et le morceau s'appelle
The New King Porter Stomp.
Nous sommes toujours avec Fletcher Anderson, mais beaucoup plus tôt, à l'époque où Louis Armstrong faisait partie de son orchestre. Le jeune Louis Armstrong avait été recruté pour jouer des solos vigoureux, ni plus ni moins. Et parallèlement à son activité de grand orchestre, Fletcher Anderson entretenait l'excellent rapport d'accompagnateur avec quelques chanteuses de blues tout à fait réputées, qui l'accompagnaient en faisant venir avec lui quelques membres de son orchestre, un petit peu le noyau des intimes, si tu veux.
Ce jour-là, Fletcher va au studio pour accompagner Ma Rainey.
Alors Ma Rainey, c'était la star du blues de cette époque-là. Howard Scott, dont peu de gens se souviennent du nom, qui était un bon trompettiste, était indisponible ce jour-là.
Fletcher est suivi d'un petit jeune homme et il le présente. Il dit « Bon, ben, pour t'accompagner, là, j'ai un trompettiste. C'est pas vraiment celui que je voulais, mais bon, il fera l'affaire. »
Et voilà comment Lou Armstrong a été présenté par Fletcher comme une sorte de plan B. Et vous allez entendre donc le plan B accompagner Ma Rainey.
Effectivement, c'est une vraie plaisanterie, ça. Hein,
très involontaire. Et ça s'appelle
Sissy Rider.
« made up this thing right from the start. Oh, it seems so hard to part. Oh, but this letter that I will write, I hope he will remember when he receives it.
Époque, ou un peu avant, Jelly Roll Morton, le fameux pianiste de la Nouvelle-Orléans,
qui avait fort mauvais caractère.
Oui, oui, aujourd'hui, nous entendons des gens qui ont généralement très mauvais caractère, c'est exact. Bref, Jelly Roll Morton, qui a émigré à Chicago, comme beaucoup de musiciens de jazz du Sud à l'époque, se retrouve au studio avec une équipe, comment dire, un tantinet rétive à ses instructions. Or, Jelly Roll Morton, Albert Nicolas nous l'a raconté un soir du temps de notre jeunesse, Jelly Roll Morton était un monsieur
qui ne supportait pas la contradiction.
Ah oui, et il savait ce qu'il voulait. En matière de musique, c'était vraiment à la double croche près et souvent avec beaucoup de soupirs de la part des exécutants. À cette séance, il y a une rareté.
Un trombone qui se fait tellement rare que je crois que c'est le seul enregistrement de cet homme-là. Il s'appelait Zoo Robertson.
Oui, oui, il était très connu à la Nouvelle-Orléans. C'était un excellent tromboniste, très réputé.
Mais très peu enregistré.
Ah oui, même très très peu, puisque à part ce jour-là, c'est tout ce qu'on sait de lui. Il y a un moment où il y a une partie de trombone qui doit être exécutée au petit fer. Et ce Zoo Robertson, il ne le fait pas.
Dur. Alors Jelly Roll le regarde avec des yeux absolument furibonds. Et Zoo Robertson, il fait comme s'il ne voyait pas.
Bah, puis il continue à jouer ce qu'il a dans la tête, tranquillement. Puis on commence à gaspiller des galettes, hein, parce que ça se grave tout ça. Hein.
Bon. Oui, il faut tout recommencer.
Et là, Morton sort un énorme revolver de sa poche, le pose sur le piano et plante son regard dans celui du trombone.
Là, le trombone, il a tout joué un pec.
Ah oui, nickel chrome, vous allez l'entendre, ça s'appelle London Blues, c'est sûrement pas un des meilleurs Jelly Roll Morton, mais on entend très clairement tout le soin que le trombone met à exécuter pointilleusement les instructions de Jelly Roll Morton.
Comme quoi un pistolet ça sert, hein ? Thank you.
Et maintenant, tendez bien vos oreilles, nous allons vous livrer un secret qui vaut $1 million. En tout cas, c'est Helen Humes qui le dit. Ça se passe en public et le public apprécie particulièrement le discours.
Et Helen Humes, elle va raconter comment elle ou d'autres se conduisent.
Ce sont quelques conseils à des jeunes filles, conseils édifiants, mais qui valent $1 million.
Alors voilà. Prenez un vieux. Il vous donnera de l'amour et du fric. Et il vous dira, viens par ici, petite. On va passer aux exercices du matin. Et puis après, il vous donne de l'argent. Alors maintenant, il a 78 ans et moi, juste 33. Tout le monde pense que je suis folle. Mais imaginez-vous qu'il me fait encore grimper au rideau. Et puis non seulement il y a de l'amour, mais il y a aussi de l'argent. Mais attention, jeune fille, si vous avez passé 42 ans, prenez un tout jeune mec et gardez-le à votre main. Il vous fera comprendre que le monde est merveilleux. Maintenant, allez dans la basse-cour et voyez cette vieille poule bien grasse. Elle a pris un jeune coq, hein, et elle se sent redevenir petit poulet. Oui, prenez un tout jeune mec et gardez-le à portée de main et il vous fera comprendre que le monde est merveilleux.
Ouais, mais alors attention, parce que là, il y a une morale.
Eh oui, il claquera tout le fric que vous avez économisé, sou à sou, et il fera de votre vie un enfer.
C'est le jour des blagues et qu'il s'agit de musiciens noirs, il y a naturellement tout un éventail de blagues qu'on fait aux blancs pour pouvoir compenser un petit peu les malheurs qu'on en subit.
Alors celui-là, c'est un sacré numéro. Il s'appelle Long John Dean et il fait les 400 coups, mais des 400 coups totalement invraisemblables.
Ouais, c'est devenu un genre de héros mythique et populaire comme, Till l'Espiègle et les exploits sont retentissants.
Ce petit plaisantin avait eu l'idée d'attaquer un train postal. Il s'est fait prendre quand même, emprisonné, et là, il s'est évadé. Mais comment peut-on s'évader de Saint-Quentin? C'est très simple, on avait oublié de fermer le Golden Gate.
Elle est bonne, hein, quelle erreur des gardiens quand même. Alors une fois qu'il est parti en mer, on a envoyé un sous-marin pour le récupérer. Il a attrapé le sous-marin et il l'a transformé en machine volante.
Ah oui, c'est très vraisemblable tout ça, mais il est génial ce type-là.
Ah ben il est génial, et c'est bien un héros le 1er avril. Voici l'histoire de Long John Dean par Louis Armstrong à la demande de Velma Middleton.
Did you hear the story of Long John Dean?
Not yet, Velma.
A bold bank robber from Bowling Green was sent to the jailhouse yesterday, but late last night he made his getaway.
He was long gone from Kentucky, long gone. Ain't he lucky? Long gone. What I mean, a long gone John from Bowling Green.
Long John stood on the railroad tie, waiting for a freight train to come by. Freight train came by puffing and flying. Oughta seen Long John grabbing that blind.
He was long gone from Kentucky, long gone. Ain't he lucky? Long gone. What I mean, long gone John from Bowling Green.
They caught him in Frisco to seal his fate. At San Quentin they jailed him one evening late. But out on the ocean John did escape, 'cause the guards forgot to close the Golden Gate. Yes!
Long gone
from Kentucky,
long gone.
Genie lucky,
long gone.
What I mean,
a long gone John from Bowling Green.
Johnny. Why, they offered a reward to bring him back, even put bloodhounds on his track. Those doggone bloodhounds lost his scent. Now nobody knows where John went.
He's long gone.
And lucky.
Long gone.
Yeah, he lucky.
Long gone.
Now, what I mean,
a long gone John from Bowling Green.
Take it from me, take it from me. A gang of men tried to capture Dean, so they chased him with a submarine. Dean jumped overboard and grabbed the submarine and made that gang catch a flying machine.
He's long gone
from Kentucky.
A long gone.
That boy is lucky.
A long gone.
What I mean,
a long gone John from Bowling Green.
From Kentucky.
Long gone.
That boy's lucky.
Long gone.
Yeah, he's cutting out now.
Long gone.
That cat sure can run, man.
Long gone.
I think I better catch up with him.
Et bien maintenant, on va vous raconter des blagues de sommeil.
Ah oui, des blagues de sommeil dont nous avons été, pour l'une d'elles d'ailleurs, les témoins. Ces blagues-là, on les a vécues du temps où nous entretenions d'étroites relations avec certains membres de l'orchestre Ellington. Là, il s'agit de Paul Gonsalves, le fameux saxophoniste ténor.
Sa spécialité, c'était de dormir. Mais attention, pas dans son lit. Comme il était très souvent fatigué, il s'endormait n'importe où. Et écoutez bien, il s'endormait même sur scène. Mais vous me direz, mais alors quand il tombait, pas du tout. Il avait une technique de sommeil extrêmement éprouvé.
Ah oui, 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 c'est tout à fait au point. Il avait un solide stand pour son saxophone ténor. Il mettait le bec du saxophone dans sa bouche. Il appuyait ses dents dessus. Et une fois que c'était fait, il s'endormait. Et alors, quand c'était à son tour de jouer, Johnny Hodges, qui était juste à côté de lui, lui envoyait un petit coup de coude.
Discret,
comme signal. Et alors, un jour, Johnny Hodges, qui était un farceur digne d'un 1er avril, attend qu'un morceau se termine. Et au moment où le morceau se termine, il envoie un grand coup de coude à Paul Gonsalves qui était en train de dormir comme un bienheureux. Alors là, réveillé en sursaut, Gonsalves saute sur ses pieds, attrape son ténor, se précipite sur le devant de la scène. Là, il entend les gens qui applaudissent la fin du morceau. Il a dû penser qu'il avait joué son solo. Alors il s'est incliné bien bas devant la foule pour saluer. Et puis il est retourné s'asseoir.
Notre dormeur, Gonsalves, dès qu'il était dans un avion, immédiatement il s'endormait.
Ah oui, comme si ça avait été une salle de concert, hein.
Et puis un jour, ça y est, la tournée est finie, l'avion repart vers New York et Gonsalves dormait toujours d'un sommeil profond. Les autres musiciens un peu plaisantins se disent « bon, on va pas le réveiller » et le laissent.
On a rangé l'avion à son parking, on a commencé l'entretien et le lendemain, c'est la femme de ménage de Kennedy Airport qui a réveillé Paul Gonsalves. Eh bien voici, extrait d'une séance que nous eûmes l'honneur d'organiser, l'année de notre mariage, avec quelques Ellingtoniens, dirigés par Cat Anderson. Voici un morceau consacré à Paul Gonsalves, dont nous pouvons attester qu'il s'est vraiment endormi pendant le morceau précédent d'ailleurs. Absolument, absolument. Là, le morceau lui était consacré, c'est une très belle ballade, et ça s'appelle
Paul's. Thank you.
séance, il y avait un tromboniste jeune pétulant d'un énorme dynamisme qui s'appelait Buster Cooper. Et là, il y avait aussi une spécialité trombone pour Buster Cooper. C'est un morceau rapide, virtuose, vraiment un morceau, il fallait que le type se donne à fond.
Vraiment le casse-patte pour un musicien. Hein.
Et je me souviens que les ingénieurs du son avaient eu beaucoup de mal, tellement le jeu de Buster était contrasté, à ne pas se faire saturer, mais à également attraper les notes les plus...
Les plus fines, les plus délicates, et puis les plus fortes, c'est pas facile pour un ingénieur du son. Hein.
Ah, surtout avec celui-là. Et le morceau est sorti sous le titre de « Trombone Buster ». Et alors, à quelque temps de là, Buster Cooper est convoqué chez Duke Ellington. Tu sais que quand Duke Ellington convoquait un de ses musiciens à part dans son bureau...
Oh là là! Il l'emmenait pas large, le gars.
Ouais, là, quand même. D'autant plus qu'il faut vous dire que, naturellement, Duke Ellington avait horreur que ses musiciens enregistrent et fassent des cachets en dehors du cadre de son orchestre à lui.
Le Duke, il aimait pas ça.
Non. Puis là, c'était un coup de canif dans le contrat, quand même. Enfin, voilà. Donc, Buster est là devant Duke et il est bien embêté, Buster.
Duke le regarde d'un œil acéré, prend un disque. Le disque, le passe.
Et quand le disque est fini, il se tourne vers Buster et lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors Buster, bon. Mais écoutez, Buster, c'est très bien. Ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment très très bien. Et puisque c'est comme ça, eh bien vous allez le jouer tous les soirs. Terminer cette émission sur le 1er avril, eh bien, nous allons vous offrir une bonne tranche de rire.
Et ce rire, c'est l'incomparable, l'extraordinaire, l'éclatant rire de Louis Armstrong.
Ce jour-là, au studio, les musiciens lui font une blague. Dès qu'il commence à jouer, il le chambre et finalement, il n'arrive pas à jouer.
Et plus Louis s'acharne à jouer, plus les musiciens trouvent des pitreries incroyables. Et ce morceau complètement fou s'appelle « Laughing Louis ». Louis qui s'éclate, Louis qui n'en peut plus de rire. «
do you know about that? Now, good evening, ladies and gentlemen. I want to tell y'all that I'm going to do a little practicing this evening on this little Selma trumpet. Bless his little heart. Now, wait a minute. Before I swing out, I want to check this little number about Laughing Louie, Laughing Louie. Look out there, gate. Laughing Louie. I'm Laughing Louie. Yeah, man. Now, I'm Laughing Louie. Yes, sir. Ain't no fool. Laughing Louie, boy. Look, y'all. I wake up every morning, and I have to laugh. But I look on the wall, and I see my photograph. Yeah, man, they call me Laughing Louie, but you cats must play yourself, because you won't let me swing. Look out there. Yeah. Yeah, that's all right, Gabe. Now, y'all think you're something, don't you? But listen, y'all won't let me play some hot riffs for you this evening, and you won't let me sing for you, but you must listen at this beautiful number, one of them old-time good ones. Listen at this.
Take off, Gate. Mellow. Look out there, Bob!
Now get a load of this now, you cat.
Change 'em, B-Wop.
Little old stuff, I get it. Look out there, man. Yeah, the beautiful part, little.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.